Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, nous parlons aujourd'hui de l'un des fondateurs de la philosophie américaine. Voici Une vie, une œuvre, William James, 1842-1910. William James ne fait pas partie des philosophes les plus connus. Sa vie n'a pas été héroïque, ses idées n'ont jamais été portées comme des slogans par des jeunes jetant des pavés. Il n'était pas un homme de la flamboyance visible, des phrases définitives, des systèmes englobants, des grilles de lecture donnant des clés pour tout, comme un guide de vie et de pensée. La philosophie de James, c'est tout l'inverse de cela. Lui qui n'a jamais cherché à être quelqu'un d'autre que lui-même, qui n'a jamais fait de concessions au mode philosophique de son temps, ne suivant que ses intuitions et ses envies intellectuelles, lesquelles le portaient dans toutes les directions. Car James, au fond, était un autodidacte en philosophie. Naturaliste, psychologue, médecin ont été ses métiers d'origine. Et c'est dans ces mélanges entre disciplines que naît la force d'une pensée qui est allée tous azimuts et qui a contribué, si ce n'est à créer, au moins à cristalliser une manière de penser qui est celle des États-Unis d'aujourd'hui, comme vous allez l'entendre dans cette émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Marie-Laure Ciboulet.
Le pragmatisme, c'est l'attitude qui consiste à se détourner des choses premières, des principes, des catégories, des nécessités supposées, pour se tourner vers les choses dernières, les fruits, les conséquences, les faits. Ça m'évoque un peu aussi l'existentialisme est un humanisme de Sartre. La façon dont il dit qu'on ne va pas juger quelqu'un sur ses potentialités. Que quelqu'un ait composé une symphonie inachevée, si elle est inachevée, elle n'existe pas. Le grand bénéfice, je trouve que c'est de la philosophie coup de pied au cul.
Stéphane Madelrieux, à quoi ressemblait Harvard, selon vous, dans les années 1870, à l'époque où James va y faire ses premières armes ?
C'était les toutes premières universités aux États-Unis, qui n'étaient pas encore très structurées, qui étaient plus, je crois, une collection d'individus brillants qu'une puissante machine administrative, mais c'est en voie de structuration, et par conséquent, ils ont une grande liberté d'enseignement et de recherche. Ils proposent des choses, ils ne sont pas astreints à un programme, comme on peut l'être parfois à l'université. Et donc, c'est le dernier état de la recherche, finalement, qui est proposé aux étudiants. Et on discute, effectivement, de l'actualité de la pensée. Et puis, il y avait très peu d'étudiants. Et donc, les cours prenaient la forme aussi de conversations autour d'un livre. Les cours étaient sans doute moins formels. Et il y avait des clubs à côté de discussions. Et avec son compatriote, collègue, ami Charles Peirce, il fonde un club de discussion qui s'appelle le Club Métaphysique, qu'ils avaient dénommé ainsi, mi par ironie, mi par dérision, parce qu'il n'était pas beaucoup question de métaphysique, mais plutôt effectivement des dernières avancées de la science et de l'interprétation philosophique qu'on pouvait faire, notamment du darwinisme par exemple.
Et on a là une assemblée de savants.
Le philosophe Mathias Girel.
Peirce, qui est à l'époque mathématicien, ingénieur, astronome. Chauncey Wright, qui est mathématicien et qui est aussi un des grands correspondants de Darwin en terre américaine, donc qui représenterait le côté naturaliste. On a des juristes, en particulier Oliver Wendell Holmes, qui allait être le futur président de la Cour suprême des États-Unis.
Ils ont quel âge à peu près tous ces gens ?
Ils ont une quarantaine, trentaine, entre 30 et 40 ans à ce moment-là, au début des années 70. James lui-même est né en 1842, donc voilà, il a une trentaine d'années. Et au fur et à mesure que les travaux ou les échanges de ce club vont se développer, donc il sera entre la trentaine et la quarantaine. À coup sûr, ce sont les meilleurs esprits, les plus brillants de cette époque-là. Et pour nous, ils ont un intérêt, c'est que cette assemblée se pose des questions proprement philosophiques, mais interroge aussi des pratiques qui sont des pratiques scientifiques ou des pratiques concrètes comme celle du droit et qui essayent de voir donc les problèmes philosophiques qui sont posés par ces pratiques.
Et c'est dans ce club métaphysique, Stéphane Madel-Rieux, que vont être posées les bases d'une manière assez spécifiquement américaine de pensée, qui s'appelle donc le pragmatisme.
Voilà, c'est Peirce le premier qui, pendant ses conversations, utilise le terme, même s'il ne va pas le publier par écrit. C'est James plus tard, 20 ans plus tard, qui écrira un article qui s'appelle « Conception philosophique et résultats pratiques », qui utilise le terme de pragmatisme, qui fait hommage à Peirce pour en avoir dégagé la règle de méthode principale. Et on date de cette conférence et du coup du club métaphysique dont cette pensée est issue, effectivement la naissance d'un mouvement proprement américain de philosophie, le pragmatisme, qui est encore vivace aujourd'hui, très vivace même, et qui consiste à considérer que nos conceptions théoriques, nos idées, doivent être évaluées du point de vue des pratiques, des conduites, des actions auxquelles elles mènent. Dans l'idée qu'il faut ne pas dissocier la théorie et la pratique, et qu'une grande part des problèmes qui a assailli la civilisation occidentale, disons, est cette dissociation entre la théorie et la pratique, entre la pensée et l'action.
Guillemette Faure, ici dans un café du 20e arrondissement de Paris. Vous venez d'envoyer votre article pour votre journal. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé très longtemps aux États-Unis. Vous l'avez senti, cette philosophie proprement américaine, cette manière de penser proprement américaine, qui est celle du pragmatisme au cours de toutes ces années que vous avez passées là-bas?
Il y a beaucoup moins de place pour la théorie, puisque justement la philosophie pragmatique fait que c'est l'expérience et les résultats d'expérience qui vont primer sur les théories. Du coup, j'allais dire, ceux qui sont dans la vie, les faits vont avoir raison sur ceux qui cherchent. Ça m'a frappé dans des débats qui sont très très chargés idéologiquement chez nous, comme ceux de l'éducation. Le jour où le maire de New York, Michael Bloomberg, a décidé de lancer une expérience qui consistait à verser des sommes d'argent aux parents des élèves qui étaient suffisamment assidus, la question de est-ce que c'est moral ou pas de payer pour aller à l'école a été très très peu discutée. La question c'était est-ce que ça pouvait marcher ou pas. L'argument du maire c'était de toute façon ne rien faire c'est ça qui serait moche. L'idée c'est qu'il fallait essayer. Si ça marchait pas on arrêterait et si ça marchait on continuait. Mais la question de est-ce que c'est moral ou pas d'arroser les parents comptait pas. Il y avait presque plus un débat sur est-ce que les parents y étaient pour quelque chose ou pas, enfin, est-ce que, qui revenait à dire est-ce que ça pouvait marcher ou pas. Ouais, mais quand on est là-bas, il y a pas mal de sujets comme ça au quotidien. Et même dans les discussions, dans les dîners, on a moins cette culture comme en France de pouvoir parler des choses pendant les heures avec des positions de principe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ne sont pas étayés par les faits, ça n'a pas tellement d'intérêt.
Mais alors ça paraît presque du bon sens, au fond, ça paraît une théorie assez simple. En quoi est-ce que c'est révolutionnaire et peut-être en quoi est-ce que ça pose problème?
Ça paraît peut-être simple aujourd'hui que effectivement nous passons après un siècle de critique du dualisme entre l'esprit et le corps, la pensée et l'expérience, mais ça ne l'était pas à l'époque et surtout ça conserve son tranchant, je pense, parce que ça donnait une règle de méthode pour évaluer toute chose en termes d'action. Il ne s'agit pas, vous voyez, de faire de l'action l'alpha et l'oméga, l'objet cardinal de nos recherches, de nos études, mais il s'agit de comprendre toute chose en termes de pratique, de conduite et d'action. Peirce a dit que le pragmatisme est né de la définition qu'un psychologue qui s'appelait Bain, anglais, avait donnée de la croyance. Il disait que la croyance est une disposition à l'action. Et en fait, c'était révolutionnaire, comme vous le dites. Parce que, avant, la croyance était considérée comme un état de conscience intellectuelle. Vous croyez quelque chose, vous croyez que la Terre est ronde, par exemple. C'est un état mental, qui est vrai ou faux. Bien. Dire que la croyance est une disposition à l'action, c'est de dire que vous ne savez pas ce qu'est la croyance de quelqu'un tant que vous n'avez pas vu en quoi il était disposé à agir sur cette croyance. Si vous croyez que la Terre est ronde, alors vous êtes disposé à partir à l'ouest pour revenir à votre point de départ. Votre croyance n'est pas authentique, ce n'est qu'une pure fantaisie, si vous n'êtes pas disposé à agir d'une certaine manière sous la conduite de cette croyance.
Il a commencé à voir clair au moment du Metaphysical Club.
Le neurophysiologiste et biographe de William James, Michel Mulders.
Et ils se sont réunis en étant convaincus, après la guerre de sécession, qu'il fallait changer l'Amérique et qu'il fallait en finir avec toutes ces dictatures. Et que par conséquent, mort à la métaphysique qui fait dire qu'on est les meilleurs et qu'on est les plus grands et qu'on est ceci et qu'on est cela et qu'on est mauvais. Si on est esclavagiste, c'est bon si on ne l'est pas, parce que la réalité est tellement plus complexe. Donc on est contre la métaphysique, qu'ils appelaient faussement, mais ça a été leur cri de ralliement et c'est devenu le Metaphysical Club, et qui a duré 6 mois. Et c'est comme ça que progressivement, il arrive à cette idée tout à fait fondamentale du pragmatisme, c'est que chacun est tellement différent l'un de l'autre. Il y a des espaces de liberté chez chacun. Par conséquent, comment croire ce que quelqu'un vous dit ? Parce que l'indicible ne passe pas. Il vous dit quelque chose, mais dit-il vrai ? Ou ne dit-il la moitié de la vérité ? Donc, dit-il, chaque homme est obligé de vérifier le bien fondé de tout ce qu'il sent, de tout ce qu'il voit, de tout ce qu'il entend. D'où le pragmatisme. Mais alors, il va évidemment plus loin avec le pragmatisme. Il dit qu'on a quand même une méthode assez objective pour vérifier si ce que l'on fait est bien ou mal. Et dans l'optique de ma responsabilité que j'ai acceptée en croyant à la liberté, dans l'optique de cette responsabilité, je suis obligé de faire le bien et surtout d'éviter le mal. Et comment savoir ce qui est bien et mal ? Alors là, il y a de nombreux passages magnifiques en anglais, c'est superbe, où il dit qu'on juge l'arbre à ses fruits, mais aussi à ses racines, et qu'on ne peut pas faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on fasse à vous-même. Et il redécouvre toutes sortes de bases de la morale élémentaire, d'une morale de base, mais qui est toujours vraie aujourd'hui.
Sylvain Bourmeaux, on a tendance à penser qu'il n'y a pas de philosophie proprement américaine ou qu'en tous les cas, elle serait au fond moins évoluée que la philosophie continentale. Pour vous, William James, c'est réellement l'un des inventeurs, alors pas le premier, pas le seul, d'une manière de penser spécifiquement américaine ?
Oui, incontestablement, c'est quelqu'un qui fait partie d'une génération charnière de ce point de vue, c'est-à-dire d'une génération de gens pour qui le voyage en Europe est extraordinairement formateur, mais qui va en même temps fonder véritablement ce qu'on peut considérer comme la première tradition philosophique américaine, qu'est le pragmatisme. Et derrière cette tradition philosophique, une tradition sociologique qui prendra sa source dans cette tradition philosophique. Et James, d'ailleurs, va inciter certains de ses élèves, étudiants, à se tourner vers la sociologie naissante. Je pense en particulier à quelqu'un d'extrêmement important, qui est Robert Ezra Park. C'est James qui envoie Park en Europe faire de la sociologie naissante et Park revient toujours en dialogue avec James et va fonder, quelques années, quelques 10 ans plus tard, on le sait, finalement la tradition sociologique américaine d'origine, c'est-à-dire l'école de Chicago, qui reposera sur l'enquête. Et je pense que James a eu un rôle central dans le fait de considérer la méthode ethnographique comme une méthode privilégiée pour l'observation de la société.
Est-ce que vous comprenez, Guillemette Fort, pourquoi ce mot de pragmatisme en France, cette idée de la philosophie pragmatiste, elle pose problème et elle semble tout de suite être un repoussoir ?
À tort, on oppose les deux. Il y a un petit côté, on a tout essayé en partant des théories. Maintenant, et finalement, on y vient un peu aussi en France, quand on publie des classements de lycée et qu'on va regarder quels sont ceux qui apportent le plus, et qu'après, on va regarder chez eux comment ils font. Finalement,
je trouve qu'on commence à y venir. Moi, je trouve que c'est quelque chose de libérant, paradoxalement. Et je suis frappée par la quantité d'études un peu behavioristes qui sortent régulièrement aux États-Unis. Et même dans les livres, dans tout ce qui est développement personnel, il y a un énorme appétit de... quand on parle le plus fort, par exemple, dans les interviews que fait le New York Times de PDG chaque semaine, il y a un côté... on ne dit pas « dites-nous en quoi vous croyez », on dit « dites-nous qu'est-ce qui marche ».
Au fond, Stéphane Madelrieux, ce pragmatisme, ce mot pragmatique tel qu'on l'entend partout sur les antennes, est-ce que c'est le pragmatisme de William James ?
Non, il a été dévoyé. En réalité, ce qu'on appelle pragmatique, lorsque nos hommes politiques se disent pragmatiques, ils disent voilà, je ne fais pas dans l'idéologie, je ne suis pas dans les idées, je suis dans l'action, je suis dans la pratique, je suis dans les résultats. Mais c'est une autre manière de dissocier la pensée et l'action, la théorie et la pratique. Or, le pragmatisme ne disait pas qu'il fallait avoir uniquement la pratique sans la théorie, ou jouer l'action contre l'idéologie ou les idées ou les grands systèmes d'idées, mais au contraire disait qu'on ne peut pas évaluer nos systèmes d'idées, nos idéologies, indépendamment de la manière dont on les met en pratique. Donc, dire être pragmatique, c'est être contre l'idéologie, je ne suis pas un idéologue, je suis un pragmatique, c'est en fait reconduire tout ce contre quoi le pragmatisme s'était dressé, c'est-à-dire le dualisme des idées et des actions, de la théorie et de la pratique, mais en faveur de la pratique plutôt qu'en faveur de la théorie.
Donc tout ce qu'on a associé finalement à ce mot fait écran à la diffusion de la pensée de James.
Oui, parce que en réalité ce sont les adversaires qui ont dit « les pragmatistes ne pensent qu'à l'action ». Et il le prenait en mauvaise part, c'était une critique, il ne pense qu'au geste, qu'au mouvement. Et petit à petit, le sens populaire du pragmatisme s'est cristallisé là-dessus, et petit à petit, ce sens a été valorisé. Et donc, on a revalorisé l'idée d'une pratique sans théorie, comme si la pratique pouvait devenir intelligente sans être informée par les théories. Et donc, c'est en fait le contresens sur le pragmatisme qui a été aujourd'hui revalorisé sous le terme de pragmatique.
Mathias Girel, qui est-il, William James, au moment du club métaphysique ? Est-ce que c'est un philosophe ? Est-ce que c'est un médecin ? Est-ce que c'est un psychologue ?
Il est très difficile de répondre à votre question parce qu'on est en droit de penser que cette réponse, William James lui-même ne l'a pas, en fait. Tout au long des années 60, il est à la recherche de sa vocation. Le père James, Henry James, à ne pas confondre avec le frère, romancier, est un personnage tout à fait curieux qui bénéficiait d'une fortune personnelle et qui a, en fait, pendant toute leur petite enfance, fait voyager les enfants de la famille James dans toute l'Europe pour les exposer aux grands monuments de l'art, à l'opéra, aux grands musées. Et il y a une première vocation de William James en portraitiste. Et on a dans sa correspondance parfois des croquis tout à fait bien réalisés. Il a vraiment un don pour ça. Et donc, il y a cette première vocation possible. Et son père fait beaucoup pour le dissuader de cette vocation artistique. Il y a une vocation de chimiste qui lui permet de rencontrer Peirce, donc dans l'école de chimie de Harvard. Et ensuite, une vocation naturaliste sous l'égide de Agassiz, qui est le grand adversaire de Darwin en terre américaine et qui emmène James dans une expédition le long de l'Amazone qui ressemble sans doute beaucoup plus à Cœur des ténèbres de Conrad qu'à une partie de plaisir ou qu'à une croisière, dont James reviendra malade, dégoûté de cette activité naturaliste. Le fait de collectionner des spécimens et puis de vivre la vie des marins aussi semble ne pas lui convenir tout à fait.
Dans ma dernière lettre, je parlais de rentrer plus tôt que je ne pensais. Depuis, j'y ai réfléchi sérieusement et consciencieusement chaque jour et j'ai fini par m'y décider tout à fait. Ça a été mon erreur d'être venu ici. Erreur au point de vue de ce que j'en attendais. Erreur bien coûteuse pour toi, mon cher père, et pour ma chère et bonne tante Catherine. Je m'aperçois qu'en restant ici, je n'apprendrai presque rien en histoire naturelle dans le sens où je voudrais l'apprendre. C'est un travail purement mécanique. On découvre des pièces, on les emballe, besogne fatigante à laquelle viennent s'ajouter les voyages, si bien qu'on n'a pas un moment pour en étudier la structure. Le tout se réduit donc à tant de mois d'exercice physique. Avant de partir, je me suis dit à moi-même, « William, ce voyage va t'apprendre à te connaître et à connaître tes ressources un peu plus intimement que tu ne l'as fait jusqu'ici. Et à ton retour, ton caractère sera considérablement développé et affermi. » C'est bien ce qui est arrivé, mais plus tôt et autrement que je l'avais imaginé.
Il tombe malade, il perd presque la vue, et on est obligé de le rapatrier. Et c'est quelqu'un qui est très prompt à la mélancolie. Et alors, on a ce retour un petit peu précipité de l'expédition Tailleur, donc l'expédition d'Agassiz. Mais si on suit James un peu plus longuement sur sa biographie, chaque fois que les choses coincent à Cambridge, eh bien, on le voit en adepte des voyages thérapeutiques en Europe, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en France. Et donc, c'est quelqu'un qui voyage énormément entre les différents continents dans un but thérapeutique pour se soigner, pour trouver enfin le sol, le terrain ou l'atmosphère qui lui permettra d'écrire sa philosophie. On a des très belles lettres de James où il évoque cette expérience du voyage, du changement de continent, et il utilise une métaphore musicale pour ça. Il dit c'est comme si on forçait à chanter ou à jouer sur une autre clé musicale. Et donc là aussi, il a une attention très grande aux effets que produisent les différents pays, les différentes atmosphères, les différentes sociétés et les différents états de la nature sur la philosophie qu'on produit, qu'on écrit. C'était aussi un grand adepte des randonnées, de la vie en montagne une partie de l'année. Et donc il est très attentif à l'importance de ces changements de lieux et à l'importance des lieux pour la philosophie.
Il est le fils de Henry James Senior. Henry James Junior, le romancier bien connu, était donc son frère cadet de 1 an. Et ce père avait des idées assez iconoclastes. Il avait hérité d'une très très large fortune familiale. Le père de Henry James Senior, qui s'appelait lui-même William James, ils s'appellent tous William ou Henry dans la famille. Et ce William James, qui est donc le grand-père de notre William James, était un self-made man à l'américaine qui vient d'Irlande, qui fait fortune dans le commerce et qui lègue une immense fortune à son fils Henry James, qui lui a eu un grand malheur dans sa vie. Il est amputé quand il est enfant de la jambe.
Pour avoir voulu sauver un de ses camarades.
Oui, dans des expériences scientifiques, ce qui effectivement bouche une grande partie de sa carrière ou de carrière possible. Et il se met effectivement à lire beaucoup de théologie, de philosophie. Et il est également l'ami d'un grand mouvement, à la fois littéraire et philosophique, qui est un des premiers grands mouvements proprement américains de littérature et de philosophie, qui s'appelle le transcendantalisme, avec des noms comme Emerson ou Thoreau, qui sont des habitués de la famille et qui viennent dîner avec le père. Et les enfants participent à ces conversations, sont éduqués dans cette atmosphère de liberté intellectuelle vis-à-vis d'une religion dogmatique, de littérature. Et le père avait une conception assez ouverte de l'éducation, ne voulait pas enfermer ses enfants dans une institution. Et donc changer tous les 3 mois, 6 mois ses enfants de place, et notamment les a beaucoup fait voyager.
Il se méfiait de toutes les institutions, parce qu'elles allaient fausser l'esprit de leurs enfants et les détourner de l'espèce de religion qu'ils s'étaient forgée et de sa manière de vivre. Il ne voulait pas que ses enfants aillent dans un collège où on leur expliquerait qu'il y a des péchés et pas de péchés, ou bien qu'il ne faut pas faire le mal et il faut faire des sacrifices pour éviter, etc. Il ne voulait pas cette influence. Résultat, il a changé de collège tous les 5-6 mois. C'est extraordinaire. Il a fait tous les gros collèges de la Nouvelle-Angleterre et puis il les a amenés en Europe, parce qu'il les avait un petit peu tous épuisés. Il les a amenés en France d'abord, puis en Allemagne un temps, à Genève tout un temps. Et ils ont été mis de force par leur père dans des cours de mathématiques. Alors, ni l'un ni l'autre n'aimait ça. Mais William, on a quand même profité pour faire des mathématiques et prendre énormément de cours à côté.
Michel Mulders, d'ailleurs, il s'est décidé pour la médecine, mais au fond, il méprisait un petit peu la médecine de cette époque-là.
Oui, mais vous devez savoir que William James était quand même assez désargenté. Il s'est marié assez rapidement, il a eu des enfants assez rapidement, mais il n'avait, l'argent ne suivait pas, parce qu'il était un peu fantaisiste, il faisait ceci, il faisait cela, il était en voyage, il avait beaucoup dépensé ce qu'il avait, il n'avait plus grand-chose, et son père, à lui, qui était très fortuné, l'avait aidé au début, mais après il a connu les grands malheurs de la ruine. Ce qui veut dire que James, qui était un homme pragmatique, c'est le cas de le dire, s'était dit, mais si je n'ai pas quelque chose qui me distingue des autres chercheurs, être un chercheur en zoologie, ça ne mènera pas à grand-chose. Par contre, je vois très bien que les grands chercheurs de mon époque ont été en Europe et ont fait la médecine. Et ils reviennent alors d'Europe avec une médecine qui était une des bonnes médecines de l'époque quand même, et arrivés alors aux États-Unis, ils avaient du prestige, ils avaient un métier, et je n'ai pas peur de le dire, ils n'avaient pas honte de le dire qu'au bout de deux après-midi ou quoi, il gagnerait bien sa vie comme médecin à Boston, que ça irait très bien.
Donc c'est pour ça qu'il est devenu médecin alors, selon vous ?
Au fond, oui. Au fond, oui. Parce que les médecins, ils ne l'impressionnaient pas. Et je le comprends, parce qu'à cette époque-là, la médecine était encore tellement balbutiante. Vous savez, c'est l'époque où à Paris même, à l'Hôtel Dieu, la Hennec inventait le stéthoscope. Écouter un cœur avec un stéthoscope, mais c'était un tel exploit. On ne savait rien de tout cela. Et alors, avec les anatomistes, on a vu quelles étaient les maladies qui correspondaient à tel et tel bruit. Mais tout ça, c'est l'époque de 1890-1900. Hein.
Est-ce que c'est important, Mathias Girel, le fait que William James soit le frère de Henry James, l'écrivain, pour comprendre William ? Et est-ce que vous voyez des liens dans la manière de penser, dans la manière de conduire sa vie entre les deux frères ?
Il y a des liens qui tiennent tout d'abord au fait que les deux frères se lisent attentivement. Et d'ailleurs, William ne ménage pas ses conseils à son frère en lui demandant de cultiver un petit peu moins son goût pour la pourriture et donc pour un certain style d'écriture que William, à un moment, juge un peu trop renfermé.
C'est quelqu'un d'assez dur, hein, de toute façon, dans ses jugements, William James.
Très dur, péremptoire. Bon, ça peut lui arriver ensuite de tempérer ses jugements, mais la correspondance, de ce point de vue-là, est assez éclairante. Et ils ont un profil assez différent. Henry se met beaucoup plus tôt à l'écart du cercle toxique de la famille James, du père extrêmement autoritaire, et puis du milieu aussi très fermé, hein, du Cambridge, États-Unis, des années 60-70. Et donc la fuite vers l'Europe, vers la France et vers l'Angleterre, c'est quelque chose qui se décide beaucoup plus tôt chez Henry, et c'est ce qui lui permet aussi de pouvoir développer son œuvre dans une certaine tranquillité, alors que James n'est pas dans la fuite, il est plutôt dans l'aller-retour, essayer de parcourir l'Europe avec ses yeux d'Américain et à revenir interroger les pratiques américaines, y compris les pratiques philosophiques, à la lumière de ses contacts européens. Et de ce point de vue-là, il y a une attitude, voire une dynamique assez différente chez les deux frères qui sont réunis donc non seulement par leurs échanges réciproques, mais aussi par leurs échanges avec la jeune sœur Alice, infirme, qui écrit ce journal magnifique et qui sera donc plus proche de Henry dans les années 80, puisqu'elle vivra en Angleterre.
Il y a rivalité aussi entre les deux ?
Rivalité est peut-être un mot trop fort, mais James William a toujours eu une ambition littéraire, et notamment pour ses principes de la psychologie, Principles of Psychology. Il avait vraiment une ambition d'avoir écrit une belle œuvre qui aurait sa place dans les grands moments de la littérature en général. Et certains critiques au XXe siècle, notamment Jacques Bardzoun, a qualifié l'expérience de la lecture des Principles d'équivalent de la lecture de Moby Dick, le genre de livre qu'on devrait toutes et tous avoir lu au moins une fois dans sa vie. Sauf que là, on n'est pas à la recherche d'un cachalot, on est à la recherche des problèmes de la philosophie de l'esprit, on est à la recherche de l'esprit.
Vous parlez, Stéphane Madel-Rieux, de cette enfance entre les États-Unis, l'Europe, entourée de Sorrow, de Emerson, et tout cela a l'air formidable. Mais William James, comme Henry d'ailleurs, a dit aussi que c'était extrêmement difficile. Et ça va être des personnalités dépressives aussi à ce moment-là, qui vont subir le poids des dépressions peut-être de leur père également, du fait qu'il ait eu sa jambe coupée. Quelle est un peu la couleur de ces années de William James jusqu'à 30 ans?
Oui, c'est vrai, il oscille entre exaltation, découverte insatiable de nouveaux domaines et en même temps crise, dépression. C'est le cas pour Henry James, c'est le cas aussi pour leur petite sœur qui s'appelle Alice James, qui a tenu un carnet et qui a été diagnostiquée neurasthénique et que les deux frères aimaient beaucoup, qui ont essayé de protéger, notamment protéger de leur père, qui pensait qu'une fille était quelque chose d'absolument inutile à l'humanité, et qui n'a pas cherché à éduquer cette fille comme il a cherché à éduquer ses deux fils aînés. Il y a eu également la guerre, qui a marqué quand même les consciences.
La guerre de sécession,
la guerre de sécession. Deux frères de William James et Henry James sont allés à la guerre. Donc ça a marqué la famille, et ça a éclaté dans une grande crise chez William James. Une grande crise un peu suicidaire, si vous voulez, où il s'est trouvé complètement au fond du trou, atteint d'une mélancolie morbide, et où un petit peu la philosophie l'a sorti, c'est-à-dire qu'il s'est accroché à notamment quelques passages d'un philosophe français qui s'appelait Renouvier, qui a été important pour William James, et qui était un philosophe de la liberté, qui a dit « Nous sommes libres, nous pouvons décider d'être libres, nous ne sommes pas fatalement déterminés par notre milieu ». Et donc, nous pouvons choisir librement d'être libres. Si la liberté existe, il faut la choisir librement. Il y a des petits accents existentialistes chez Renouvier. C'est pour ça qu'il y avait des points communs entre l'existentialisme et le pragmatisme. Et ça lui a donné une sorte de morale, une morale de l'action, de la liberté, du pouvoir de faire une différence. Vous savez, c'est aussi pour ça que c'est un penseur américain. C'est qu'il n'y a pas de film américain qui ne soit basé sur cette intrigue. Vous pouvez faire une différence. Et donc, il a eu cette crise très forte qui l'a amené à s'intéresser notamment à la psychologie morbide, à la psychologie des états anormaux, comme on disait à l'époque, parce que c'était aussi un moyen de comprendre, effectivement, sans doute, ses propres dispositions. Et il a été, en plus d'être un des fondateurs de la psychologie scientifique aux États-Unis, fondateur d'un laboratoire de psychologie expérimentale, d'inspiration darwinienne, qui disséquait des cerveaux pour apprendre aux étudiants effectivement les corrélations entre le cerveau et la pensée. Il a été en même temps et de manière parallèle un introducteur de la psychologie clinique, de cette psychologie des états effectivement exceptionnels, de l'hystérie, de l'hypnose, des dédoublements de la personnalité, de la découverte de l'inconscient.
Donc il y a une quête personnelle chez William James.
Il y a très certainement une quête personnelle.
Avant de se consacrer totalement à la philosophie dans une seconde partie de sa vie, William James va poursuivre à Harvard la carrière d'un chercheur en psychologie et développe des idées particulièrement originales à ce moment-là. Car au lieu de considérer, comme on le faisait à l'époque, peut-être d'ailleurs encore aujourd'hui, que la psychologie est avant tout une affaire d'introspection, eh bien William James mène des expériences visant à étudier le cerveau, les nerfs, les organes, pour comprendre nos états mentaux. Après de longues années de recherche, il publie à 48 ans le chef-d'œuvre qui détaille sa pensée et qui va s'appeler « Les principes de psychologie ». On y retrouve les deux grands pôles de ses théories en la matière, l'un sur la conscience et l'autre sur les émotions.
Je suis rentré très fatigué. J'ai fait du feu et j'ai passé là tout seul 2 heures délicieuses à songer à la grande étape de ma vie qui vient de s'achever, c'est-à-dire à ce maudit ouvrage. Et à la perspective de pouvoir désormais travailler, vivre, aimer, sans me sentir toujours dans l'ombre de cet interminable nuage noir. Et puis j'éprouve une certaine satisfaction à penser que ma vie n'est pas faite uniquement de projets, d'aspirations et de phrases, mais que je puis aussi montrer de temps à autre un peu de travail après avoir tant fait mes embarras. L'amusant, c'est que moi qui me suis toujours cru l'homme des visions fugitives, du décousu et des aperçus, incapable d'aucune œuvre de longue haleine, je me rends compte tout à coup, quand tout est fini, que je viens d'écrire le plus gros ouvrage de psychologie qui ait jamais paru dans aucune langue, à part ceux de Wundt, de Rosimi et de Daniel Greenleaf Thompson. Mais il peut bien être réduit en cendres chez l'imprimeur, ce n'est pas moi qui irai m'en inquiéter ni le recommencer.
Dans ce livre, il essaye d'approcher avec énormément d'esprit analytique, mais aussi synthétique et même avec de l'humour, de ce que c'est que la conscience. Et il arrive à des conclusions mais totalement différentes de ce que les psychologues de l'époque disaient, et notamment Wundt. William James fait remarquer que la conscience est avant tout un phénomène de neurones. Vous voyez ? Tout ça, c'est purement organique. Ça n'a rien à voir avec l'esprit.
Donc au fond, là où c'est révolutionnaire, Michel Mulder, c'est que ça va contre l'idée que l'être humain est une âme, en fait, qui est presque divine, c'est ça. Donc finalement, l'être humain est un fait de matière comme tout le reste de l'univers.
Il est évident, et surtout dans l'optique philosophique de James, l'homme est un produit de la nature.
Je sens que nous sommes tout pétris de matière, entièrement conditionnés, qu'il ne se réalise pas une parcelle de notre volonté qui ne soit le résultat d'une loi physique. Et pourtant, nous sommes bien en rapport avec la raison. Comment le comprendre ? Qui sait ? Je suis convaincu que la tactique défensive des spiritualistes français, qui se retirent en bon ordre devant le matérialisme, n'aboutira jamais à rien. Ce n'est pas tant que nous ne soyons que matière à l'exception d'un point qui est la raison, mais c'est que tout est matière et tout est également raison. Nous verrons bien. Que diable, nous verrons bien.
William James était un homme qui est le premier à parler au fond des émotions d'une manière extrêmement révolutionnaire pour l'époque et ça intéressait tout le monde. C'était révolutionnaire parce que on était à cette époque-là très influencé par la physiologie américaine et anglaise, qui était très soucieux de dire « j'ai un sentiment et je l'exprime, j'ai peur et je m'enfuis ». Et c'était un reflet, si vous voulez, du dualisme qu'il y avait à l'époque. Le cerveau était une boîte noire qui réfléchissait, qui enregistrait les événements et qui prenait les décisions. Et le corps obéissait. Et la grande révolution, c'était de dire le contraire.
Et c'est ça que dit William James, qu'au fond, il n'y a pas de différence entre la boîte noire, le cerveau et le corps, c'est ça, Michel Mulder ?
Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de différence, mais ils travaillent tous ensemble, ils travaillent de concert. Il n'est pas possible de ressentir une émotion sans en avoir, je dirais, une trace dans le corps. C'est impossible. C'est très simple, un acteur, et c'est William James qui le dit, un acteur qui mime une émotion ne réussira à faire passer la perception de son émotion que s'il la ressent lui-même. Et lui-même, si c'est un bon acteur, il va, s'il a très peur, ressentir les crampes d'estomac et tous les symptômes que l'on connaissons quand on est en panique. Vous voyez ? Donc il n'est pas possible de concevoir une émotion qui ne soit pas un phénomène du corps dans son ensemble.
Un des morceaux les plus connus de sa psychologie, elle est liée à sa perspective naturaliste, puisqu'il s'agit de ne pas dissocier la compréhension des émotions de l'étude du corps. On ne peut plus étudier les émotions comme si elles étaient de purs états mentaux, spirituels, mais il faut les étudier en fonction du corps. C'est le corps qui est la cause de nos émotions. Vous vous promenez dans les montagnes rocheuses et vous percevez un ours et vous vous mettez à courir. Est-ce que vous avez couru, tremblé parce que vous avez fait un raisonnement intellectuel ? Non, votre comportement est émotionnel. D'où vient l'émotion ? Eh bien l'émotion vient de ce fait que votre corps réagit de manière réflexe à cette perception. C'est la conscience que vous prenez de toutes ces bouleversements organiques qui sont votre émotion.
Donc toujours cette idée que la cérébralité, tout ça c'est très bien, mais que ça n'est pas tout et c'est loin d'être tout en fait.
Voilà. En gros, le défi de William James est de nous dire « montrez-moi une émotion qui soit complètement désincarnée ». On n'a jamais vu d'émotion désincarnée. Donc on ne peut pas expliquer l'émotion comme un pur état de conscience.
Aussi des expériences pour tenter de déterminer si la transmission de pensée existe réellement.
Alors ça, c'est des expériences déjà un peu plus exotiques, un peu plus hétérodoxes, qui ne sont pas partagées par l'ensemble des scientifiques, au contraire, qui sont très controversées. Ils se lancent dans des recherches qu'on appelle à l'époque les recherches psychiques, et qui visent à, effectivement, comprendre la réalité de ces phénomènes très exceptionnels, s'ils existent, que sont la télépathie, donc la transmission de pensées en dehors de tout canal sensoriel, mais également la médiumnité, à savoir le dialogue avec les morts.
Il a participé à un très très grand nombre de ce qu'on appelait alors des séances. Il a fréquenté de très près une des voyantes de Cambridge qui s'appelait Leonora Piper. Et il l'a fait, je pense, mu par un intérêt propre, un intérêt particulier, et aussi avec l'idée que, même pour prouver à la fin que ces choses-là étaient fausses, c'était de la manipulation, eh bien, il fallait y assister pour voir, pour éventuellement démonter les procédés qui étaient utilisés. Et il est très certain que ça lui donne une très mauvaise presse vis-à-vis de ses élèves, qui étaient beaucoup plus austères de ce point de vue-là. James n'a que faire de ce type de convenance. La question, c'est de savoir si notre expérience se limite ou est épuisée par les descriptions ordinaires que nous en avons, ou s'il y a des au-delà, des marges de l'expérience qui seraient explorées lors de ce genre de séances.
Il faut bien vous dire que c'est une période où le surnaturel était partout. Il n'y avait pas seulement la religion. Les apparitions de Lourdes et toutes ces apparitions à répétition, évidemment, c'était du surnaturel, mais religieux. Mais alors, il y avait le surnaturel de ceux qui faisaient revenir les morts, les tourneurs de table, et tous ces personnages qui, à l'époque, faisaient au fond beaucoup de supercherie, beaucoup de... Mais encore une fois, tout le monde s'y intéressait. Tout le monde s'y intéressait, et au fond, mon Dieu, il y en a tellement à la Salpêtrière, quand on a parlé de l'hystérie très longtemps. Eh bien, c'était aussi avec l'idée qu'il y avait du paranormal là-derrière. Et il y avait d'ailleurs des réactions hystériques qu'on pouvait difficilement expliquer. Tout le monde s'y intéressait un peu.
Et donc, il y a une grande vague de spiritisme ou d'occultisme sur toute l'Europe et tous les pays occidentaux. À côté de ça, il y a les scientifiques dans l'université, dans les instituts de recherche, qui refusent d'emblée de reconnaître toute pertinence à ce genre de fait. Et il y a entre ces deux groupes, les occultistes et disons les dogmatiques scientifiques, un groupe de chercheurs qui sont des universitaires, qui sont des scientifiques comme James, et qui se disent peut-être il y a quelque chose à savoir là-dedans. Mais il ne faut pas le laisser aux occultistes, il ne faut pas le laisser aux spiritistes. Donc il faut appliquer les nouvelles méthodes des sciences expérimentales à ces phénomènes qui semblent tellement opposé à notre conception scientifique de la nature. Et donc, il faut véritablement expérimenter sur ces phénomènes. Pour la télépathie, par exemple, on a la description de protocoles très minutieux parce qu'il s'agit monter une expérience de telle sorte que toutes les autres hypothèses non télépathiques soient évacuées. C'est-à-dire, il faut une expérience telle que, par exemple, la fraude soit écartée. Impossible.
Donc les gens ne peuvent pas se connaître.
Il faut que les gens ne se connaissent pas, il faut qu'ils ne soient pas dans la même pièce, il faut que celui qui est censé lire dans la pensée de l'autre ait une cagoule pour éviter de lire sur les lèvres de l'autre, pour éviter toute connivence entre les deux. Il faut qu'il y en ait un des deux qui lise un petit papier avec un mot écrit dessus, qu'il remette le petit papier dans sa poche. Ensuite, il pense fortement à ce mot et que celui qui est dans la pièce à côté, avec sa cagoule sur la tête, essaye de deviner le mot auquel pense le premier individu. Donc vous voyez, il fallait essayer de faire en sorte que toutes les autres hypothèses soient écartées pour qu'il ne reste plus comme explication que la télépathie comme dernier recours.
Vers la fin de sa vie, il sera globalement assez sceptique. On a dans ses derniers textes un passage dans lequel il relève chez la plupart des gens une volonté de faire croire ou de s'illusionner ou de tromper. Non pas « a will to believe », la volonté de croire, mais « a will to make believe », qui reste peut-être quand même son point de vue final sur cette question. Et dans ce cas-là, si on le relit comme ça, eh bien, ça ferait partie, y compris dans cette participation à des séances, de son attitude expérimentale, voir ce qu'il se passe et éventuellement dénoncer un certain nombre de manipulations.
Stéphane Madelrieux, encore plus étonnant, James va essayer de prouver l'existence de Dieu.
Oui, ça n'est pas si étonnant parce qu'il y a une longue tradition en philosophie de la preuve de l'existence de Dieu depuis Aristote, Platon, jusqu'à Descartes, etc. Il y a une longue entreprise de démonstration de l'existence de Dieu. Mais pour James, il faut déplacer la question. On ne peut pas prouver l'existence de Dieu de manière rationnelle, c'est-à-dire par des raisonnements. Et donc, James, qui est empiriste, qui est pragmatiste, lui veut partir des expériences, et pas de n'importe quelle expérience. Mais donc, il faut fonder la preuve ou l'existence de Dieu sur des expériences typiquement religieuses. Par exemple, les conversions. Et James se lance dans un livre qui est un de ses livres les plus célèbres aux États-Unis, c'est même un des livres les plus vendus en sciences humaines des États-Unis, qui s'appelle « Les variétés de l'expérience religieuse ». Et il étudie de manière psychologique, empirique, des crises de conversion. Donc il étudie des questionnaires, il fait faire des entretiens, il lit des autobiographies de gens qui ont été convertis à la religion, et notamment de manière spectaculaire, de manière subite, instantanée quasiment, avec l'idée que vous n'étiez pas au contrôle de cette expérience, qu'il y avait comme une grande puissance qui était, qui vous disait soudain de changer de vie complètement. Et sa première explication, justement, c'est l'idée qu'il y a un inconscient. Mais il va se dire que l'inconscient n'explique pas tout et qu'il faut le concevoir plutôt comme une porte à travers laquelle passerait une énergie qui serait d'origine divine. Donc il dit que, en gros, on peut avoir l'explication psychologique, et il faut l'avoir, c'est elle qui est la plus explicative, mais elle ne nous interdit pas de faire l'hypothèse supplémentaire. C'est-à-dire que les faits scientifiques peuvent être en accord, ou en tout cas n'interdisent pas, la croyance religieuse en une force supérieure. Mais elle interdit beaucoup de choses. Elle interdit l'idée que le Dieu serait le Dieu du christianisme, en réalité.
Il sent qu'il n'est pas fait pour un Dieu unique, que c'est une hypothèse parmi d'autres qu'il y ait un Dieu unique, mais que ce soit au contraire accablé devant la multitude des petits dieux qui représentent l'un la forêt, l'autre les prairies, l'autre le vent, l'autre la mer. Il dit que ça sont tous des puissances en soi qui n'ont rien à faire l'une avec l'autre. Je suis décidément un pluraliste. Et alors, il y a toutes ces discussions sur sa croyance, sa pas croyance, parce qu'il est incapable de croire à un dieu unique. Parce qu'il dit, c'est pas possible. La réalité est tellement éclatée qu'on a l'impression qu'il y a autant de centres de force quand on voit un arbre se tailler un espace, comme le grand cerisier là-bas, ou comme on voit les petites plantes réussir à vaincre l'hiver et le gel, et comme chacun a son univers. Alors, dit-il, pour moi, tant qu'il n'y ait pas une connaissance de quelque chose qui unifie tout cela. Moi, je suis un pluraliste, alors. Parce que si on croit que tout a une force unique remontant à un Dieu unique, ben ça, c'est contre l'expérience. C'est pas ça qu'on voit, c'est le contraire.
Je pense que ce qui a pesé sur James dans les 10 dernières années de sa vie, c'est le fait d'avoir pas réussi à mettre à l'écart toutes les sollicitations dont il faisait l'objet pour écrire son livre. dont on a une partie dans « Some Problems of Philosophy », traduit en français sous le titre « D'introduction à la philosophie ». Et donc ça, ça le chagrine beaucoup parce qu'il a le sentiment d'avoir en lui ce livre, mais les devoirs de l'enseignement et aussi les conférences hein, auxquelles il est très sensible l'éloignent sans doute de ce type de réalisation de soi à travers un livre, je pense, qui aurait été très importante à ses yeux. On pourrait d'ailleurs, bon, ce serait peut-être un petit peu de psychologie sauvage que de faire ça, mais en tout cas, une grande partie de son activité de conférence, de conférencier, pour lequel il avait un don tout à fait manifeste, peut parfois être lu comme une forme de diversion par rapport à l'angoisse de l'écriture ou à l'angoisse de vraiment de couler sa pensée dans une philosophie qui serait formulée voilà, très clairement entre les deux couvertures d'un livre. Le James conférencier, c'est quelque chose qui occupe une grande partie de sa vie dès les années 80 et encore plus à partir des années 90 lorsque la crise fait qu'il faut qu'il complète un petit peu ses revenus. Et donc James est investi dans une sorte de tour de conférences que se partagent les grands professeurs, les grands conférenciers de l'époque. On a les chiffres du public qui assistait aux conférences de James. On sait qu'à Chicago, en 1905, il pouvait avoir entre 500 et 800 personnes pour une conférence philosophique, ce qui est tout à fait prodigieux pour une conférence de philosophie. Et à l'époque, et aujourd'hui, on n'en parlerait même pas.
Il a dû être passionnant. On se battait pour venir l'écouter. Il faut dire qu'il parlait très bien quand on voit ce qu'il écrit. Si vous lisez ses textes à haute voix, mais vous ne vous croyez pas William James, mais vous pouvez imaginer quel impact il devait avoir, parce que c'est un anglais superbe. À mon avis, beaucoup plus beau qu'Henry James. Et je ne suis pas celui qui a inventé cette comparaison. D'autres l'ont déjà dit pour moi.
On dit que Henry James était un meilleur psychologue que William.
Exactement.
Et William écrivait mieux.
Il écrit admirablement bien. Parce que William est long. Hein. Il fait des phrases. Il aime le latin, la grammaire. Alors, ce sont des phrases kilométriques, il sait, disibili. James, parfois aussi, mais il s'arrange pour la couper. Et alors, ça change d'allure. Comme en musique, on passe du mineur au majeur, quoi.
Et ses cours étaient basés sur la conversation beaucoup. Il y avait ce côté extrêmement moderne.
Oui, extrêmement. Il a d'ailleurs écrit un livre hein, au professeur, pour expliquer au professeur comment il devait en principe agir et à se préoccuper beaucoup plus de l'étudiant qu'ils ont devant eux que de la matière qu'ils sont censés transmettre.
Voici une scène que m'a peinte un ami. C'était au cours d'une petite classe qui se réunissait dans le cabinet même de James. Désireux d'illustrer sa pensée, il alla chercher un tableau noir, le mit sur une chaise, puis essaya un certain nombre d'autres positions sans réussir à écrire, tenir le tableau et le mettre bien en vue tout à la fois. Entièrement à son idée, il finit par maintenir le tableau droit sur le plancher, s'y couchant lui-même de tout son long et le soutenant d'une main, dessinant de l'autre, il poursuivit son cours. Je le vois encore, moi-même, après une de ses conférences sur le pragmatisme dans la salle Horace Mann à New York. Assailli de questions par des gens qui s'étaient avancés jusqu'au bord de l'estrade, il finit par s'asseoir lui-même sur ce rebord, malgré sa redingote, les pieds pendants, entièrement absorbé par son sujet, comme d'habitude, tandis que de cet air bienveillant, pensif et attendri qui lui était propre en ces occasions, il allait au-devant de la pensée de ses interpellateurs dont il avait su capturer l'attention.
James avait écrit un texte contre les diplômes, contre le diplôme du doctorat, qui s'appelait la pieuvre du doctorat.
Qu'est-ce qu'il reprochait au diplôme ?
Justement, d'enfermer la pensée dans des attentes et des structures qui pourraient l'étouffer, qui pourraient empêcher un individu de poursuivre une réflexion originale. Car James n'était jamais prêt à fermer des portes, y compris les pensées les plus originales avaient droit d'accès, il s'y intéressait. Et par conséquent, il pensait que organiser trop fermement les études pouvait être un moyen d'écarter ce type de penseur dont on pouvait toujours apprendre quelque chose. Il m'a sorti de beaucoup de choses dans lesquelles j'avais été formé, une certaine philosophie française notamment. Il m'a ouvert effectivement à Déjà, l'idée qu'il faut essayer d'être clair en philosophie, qu'il faut rendre nos idées claires, parce que c'était ça la méthode pragmatiste.
Lui, il disait que plus les choses étaient complexes et finalement incompréhensibles, et plus l'académie, le corps professoral allait vous valider. Et que plus c'était clair au fond et moins on aimait ce que vous disiez.
Oui, il y a une certaine complaisance peut-être dans les discours obscurs qui justifient leur obscurité en disant qu'ils sont profonds. Et il est vrai que la pensée américaine et anglaise aussi, parce que c'était déjà le cas des empiristes, a toujours été une protestation contre ce type de discours qui, au contraire, a été bien reçu, je trouve, hein, dans une certaine partie de la philosophie française dans laquelle j'avais été moi-même formé. Et j'ai, en lisant William James, j'ai eu justement l'effet d'un grand courant d'air qui m'a permis d'ouvrir un peu ces portes, de me faire une autre conception de ce qu'est et de ce que devrait être la philosophie. J'ai subi une conversion intellectuelle, j'ai changé très fortement ma manière de faire en philosophie.
Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, William James soit comme ça un peu tombé, peut-être pas dans le monde académique, mais en tout cas dans le grand public, dans les oubliettes?
Il y a des effets de mode, en philosophie comme ailleurs. Il incarnait un courant qui a été ensuite un peu relégué par l'arrivée des existentialistes, Sartre, Merleau-Ponty, qui ont pensé qu'ils pouvaient faire mieux que eux, c'est-à-dire que le pragmatisme était un retour vers le concret, vers l'expérience. Et les existentialistes ont pensé que c'était bien, mais qu'il fallait aller plus loin et que le retour vers l'expérience, vers le concret, devait se traduire en retour vers l'existence. Et donc, on s'est petit à petit acheminé vers une autre école de pensée, l'existentialiste qui a pris la place. Et puis, le jeu des courants, des écoles, a fait qu'on a petit à petit oublié effectivement James, comme on a oublié Bergson, qui avait été son grand ami, qui partageait un grand nombre d'idées avec lui et qui a également été un peu l'homme à abattre à partir des années 20, des années 30 en France, en philosophie. Et donc, James a, si vous voulez, partagé à la fois la gloire de Bergson et son oubli.
C'était Une vie, une œuvre aujourd'hui consacrée au philosophe et psychologue américain William James, 1842-1910, avec les enseignants et chercheurs en philosophie Stéphane Madel-Rieu et Mathias Girel, le neurophysiologiste et biographe de William James, Michel Mulders, ainsi que les journalistes Guy Medfort et Sylvain Bourmeau.
Je ne sais pas s'il m'a aidé à vivre, mais c'est vrai qu'il était quelqu'un qui avait de la vie une conception à la fois complexe et en même temps ouverte, qui fait qu'on trouve beaucoup plus chez lui que chez beaucoup d'autres philosophes de salon ou académiques. Parce qu'il n'était lui-même pas formé en philosophie, mais il est devenu un professionnel de la philosophie, et c'est vrai que ce parcours, sans doute, fait qu'il est lu par d'autres gens que des philosophes.
Les lectures étaient assurées par Georges Claes, à la prise de son de reportage Thomas Robin, mixage Benjamin Vignal, attaché de production Laurence Genepin, une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Marie-Laure Ciboulet. Sur le site de l'émission, où vous retrouvez chaque semaine le portrait fait par Delius de la personne dont nous parlons à l'antenne, vous retrouverez également la carte mentale, toujours de la personne dont il est question dans l'émission. Nous la devons à Marie Vigée, que je remercie. Et puis il y a également les liens sélectionnés par Annelise Signoret de la bibliothèque de Radio France. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, nous vous proposerons de réentendre une émission sur Simone de Beauvoir. Mais pour l'heure, c'est avec Le Carnet d'or que vous avez rendez-vous. Très bon après-midi à toutes et à tous sur France Culture.